Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacou, bonsoir à tous.
Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, est avec nous. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Yacouba, bienvenue à Kinshasa.
Avec nous aussi Élisée Nkwatine depuis Boyukon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous.
Amine Birouk est en direct depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et donc on va retrouver Amdine Si à Dakar d'ici là. En attendant, merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Une deuxième étoile pour l'histoire. L'Algérie a remporté la Coupe d'Afrique des Nations pour clore dans la liesse 29 ans d'attente depuis son premier sacre après avoir battu le Sénégal 1-0 en finale. Vendredi donc au Caire, nous allons en parler, mais aussi de l'ensemble du tournoi. On va commencer par écouter le sélectionneur tout heureux de l'Algérie, Djamel Belmadi.
Même si c'est difficile peut-être à voir, mais très heureux pour tout ce monde, notre nation qui attendait cette deuxième étoile depuis tellement de temps. Il y a 10 mois, j'ai récupéré une équipe vraiment dans la difficulté, sans vouloir dramatiser, mais c'était vraiment dans la difficulté. Et réaliser tout ce qu'on a pu faire et se porter comme ça sur le toit de l'Afrique en 10 mois, c'est tout simplement extraordinaire.
En face, les Sénégalais, forts de leur statut de mondialiste de première nation africaine au classement FIFA et de l'apport de leur champion d'Europe, Sadio Mané, étaient persuadés de pouvoir enfin vaincre le signe indien à l'occasion de la deuxième finale continentale de leur histoire. Après celle perdue en 2002 face au Cameroun, il faudra encore attendre. Le sélectionneur sénégalais Issa Poulin n'ont pas eu la solution devant les Fenecs. Aliou Cissé.
Je pense que dans l'ensemble du match, honnêtement, on ne démérite pas. Je crois qu'on a contrôlé plutôt le match. On s'est procuré des occasions. Et effectivement, on n'a pas pu marquer ce but-là qui pouvait à un moment donné les faire douter. Mais vous savez, quand vous marquez un but très tôt dans le match, les plans sont beaucoup plus clairs. Il fallait qu'on attaque et face à un bloc très dense, un bloc très agressif. Et on n'a pas pu trouver en tout cas la solution.
Alors, Amdine Si est en direct depuis Dakar, de retour du Caire. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Alors Amdine, je lisais un auditeur sur notre page Facebook qui disait cette finale, l'Algérie l'a gagnée, mais le Sénégal l'a jouée. Vous m'entendez Amdine? Et donc, on va essayer de reprendre Amdine. Alors, Amine, je le disais, il y a un auditeur sur la page Facebook de VOA Afrique qui disait que cette finale, l'Algérie l'a gagnée, mais le Sénégal l'a jouée. Est-ce votre avis? Amine, vous m'entendez?
Tout à fait. Je disais qu'en général, les finales ne se jouent pas, elles se gagnent. C'est ce qu'a fait la sélection algérienne vendredi. Peut-être que c'était la production, ou plutôt la sortie la moins inspirée des Fenech. Tout au long du tournoi, ils avaient développé un jeu collectif séduisant, une équipe qui a su attaquer, qui a su proposer du jeu, beaucoup plus que d'autres sélections présentes, beaucoup plus réputées, au moins au cours des dernières années. Mais lors de cette finale, mis à part la frappe de Bounedjah qui a été contrée et qui a abouti à ce but, un but bizarre puisqu'on pourrait accuser le gardien sénégalais de ne pas avoir fait le nécessaire pour au moins tenter d'arrêter ce ballon qui a été contré. On a vu une équipe sénégalaise qui a essayé de proposer du jeu et une équipe algérienne qui s'est contentée de défendre tout au long de la finale. On a vu une équipe algérienne peut-être mieux organisée sur le plan défensif et une équipe sénégalaise beaucoup moins inspirée sur le plan collectif. L'équipe du Sénégal a eu 2-3 occasions nettes, la frappe de Mbaye Niang à la 38e minute, une action litigieuse dans la surface de réparation aux alentours de la 42e minute et la reprise de volée d'Ismaïla Sarr en toute fin de partie. Mais sinon, l'Algérie n'a rien concédé. L'Algérie a joué avec la grinta, elle a joué avec du caractère, elle a joué avec du cœur. Et aujourd'hui, si l'on doit se référer à l'ensemble du tournoi, c'est l'équipe qui a le plus proposé qui l'emporte. Mais pendant les 90 minutes de la finale, on n'a pas eu droit à un grand spectacle de la part de la sélection algérienne, qui visiblement était au bout du rouleau sur le plan physique. Elle a dû peut-être tenir le coup grâce à des ressources psychologiques, grâce à une bonne organisation de jeu, grâce à la volonté des joueurs et surtout, elle a eu une âme, elle a eu un inspirateur depuis le banc de touche, Djamel Belmadi, une victoire qui consacre le cadre algérien, qui consacre le cadre national bien formé, qui a su en quelques mois transformer une équipe algérienne moribonde en un véritable prétendant au titre, puis en un champion d'Afrique aujourd'hui. Bravo pour la sélection algérienne.
Alors, Amdine, vous m'entendez cette fois-ci? Bonsoir.
Oui, je vous entends très bien. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Afrique.
Alors, merci d'être avec nous. On a vu les Lions de la Teranga chercher vainement la solution face au Fennec. Peut-être que cela est aussi assez symptomatique de cette équipe du Sénégal depuis le début de la compétition jusqu'à cette finale-là.
Tout à fait, vous avez raison de le dire, mais on peut dire que pour cette finale, le Sénégal était un cran au-dessus quand même de son adversaire. Qu'est-ce qu'il explique? C'est le but matinal pris, puisque les Algériens, lorsqu'ils ont marqué à la deuxième minute, ils se sont contentés, comme Amin Diouf l'a dit tout à l'heure, ils ont fait de la gestion parce qu'ils ont marqué très tôt. Quand on regarde les deux matchs joués contre l'Algérie, c'est comme le jour et la nuit, car lors de la deuxième journée, l'Algérie avait vraiment bien joué, l'Algérie avait malmener les Sénégalais, mais pour cette finale, vraiment, le Sénégal était supérieur à l'Algérie, mais on comprend. Une finale, c'est un match à résultat immédiat, et les Algériens l'ont compris. Lorsqu'ils ont marqué, ils ont géré. Les Sénégalais se sont procurés des occasions. C'est pas tellement nombreux, mais ils ont eu quand même trois occasions, plus le fameux penalty, refusé ensuite grâce à la VAR. Donc, c'est comme ça en football. Quand tu domines, il faut marquer. Et l'Algérie a montré au Sénégal qu'il était vraiment la meilleure équipe, puisque lorsqu'il a mené au score le Sénégal, il l'a battu à deux reprises. Je peux dire que c'est la meilleure équipe de ce tournoi qui a remporté quand même cette compétition. Même s'ils se battent sur la finale, le Sénégal était un peu au cran au-dessus, Yacouba.
Et donc le Sénégal, un cran au-dessus, mais c'est l'Algérie qui a remporté. Et donc le Sénégal, sans doute, qui reste la meilleure nation africaine, on l'espère. On attendra de voir le classement FIFA de ce mois de juin. Alors Jules, les Sénégalais aussi pourront peut-être s'en vouloir parce que, quoi qu'on dise, ils ont souffert de leur grande maladresse dans les coups de pied arrêtés et de la VAR aussi qui a cette fois-ci sauvé les Fennec.
Oui, bien sûr, on peut justement remarquer d'une manière générale, la plupart des équipes d'Afrique subsaharienne ont des problèmes avec les coups de pied arrêtés qui ne sont pas pour eux des occasions de but. Alors, ça c'est un grand handicap, alors que dans le football moderne, actuellement, ces coups francs qu'on concède dans loin de la surface de réparation, en fait, on devrait, le ratio de la transformation de ces coups francs devrait remonter, comme l'Algérie l'a montré d'ailleurs contre le Nigeria. Donc c'est à partir du moment où on ne profite pas de toutes les chances, ou alors on n'a pas les capacités de profiter de toutes les chances, et on a beau dominer, mais on ne fait pas la décision automatiquement.
Alors, Élisée, sur le but de l'Algérie, on a vu que Cheikh Kouyaté s'est fait prendre un de coups en essayant d'anticiper. Salif Sané a tenté de rattraper le coup, mais c'était trop tard. L'absence de Kalidou Koulibaly, suspendu, s'est fait sentir, on va dire, dès la première action de l'Algérie qui a fini au fond des filets.
Bien évidemment, puisque Salif Sané, qui n'a plus joué depuis la première journée de cette compétition, où il a contracté cette blessure, et voilà, il était un peu en retrait par rapport à la couverture, puisque automatiquement, quand on a vu ça, le capitaine se fait rapidement brûler la politesse, mais il y avait un écart entre Bounedjad et justement Salif Sané. Rapidement, l'attention était là. C'est vrai aussi que, bon, selon moi, le gardien aussi en est pour quelque chose, puisque le ballon a mis beaucoup de secondes en l'air avant de descendre dans le filet. Il aurait pu jouer autrement, pourquoi pas ne pas courir pour pouvoir accompagner le ballon avec sa main. Bon, il a du mal à apprécier la trajectoire du ballon et puis ça suffit. Le but qu'il ne fallait pas encaisser. Salif Koulibaly a largement manqué à cette défense sénégalaise qui, tout au long de la rencontre, a été mise en difficulté, il faut le reconnaître, et à chaque prise de balle de l'Euro héros du héros de la soirée, c'est bien sûr l'attaquant algérien Bounedjad. Il a posé pas mal de problèmes à cette équipe sénégalaise qui seulement au milieu du terrain a fait faire respecter. L'autre chose, il faudrait aussi comprendre que le Sénégal avait une très belle formation, les Sénégalais ont bien joué le coup, mais il a manqué quelque chose, je ne saurais comment l'expliquer. À un moment donné, il a manqué quelques coutumes hein, de la part de Aliou Cissé. Sinon, sur Ismaël Sarr, hein, Yacouba Ouédraoui, il faut le dire, c'est un ailier, c'est un joueur de couloir, mais il n'a pas pu déborder un seul instant durant plus de 85 minutes. Et voilà, on aurait pu lancer l'attaquant de l'Inter de Milan pour voir si au moins il aurait pu faire la différence devant le latéral gauche de cette équipe algérienne. Ça a été une défection totale, il faut le dire, pour répondre à votre question. L'absence de Kalilou Koulibaly a vraiment joué dans cette défense sénégalaise. C'est à quoi que le capitaine et Salif Sané n'ont pas l'habitude de jouer ensemble puisqu'il n'y avait pas eu de communication entre les deux hommes.
Et donc, vous le disiez, Ismaïla Sarr est bien pris par Ben Zebaini, son coéquipier de Rennes. Alors, Thierry, on l'a vu, le match a manqué de rythme et de technicité après leur but. Et vos prédécesseurs le disaient tout à l'heure, les Algériens ont été très physiques et agressifs. Est-ce que Aliou Cissé n'a pas trop tardé avant de réagir offensivement quand on encaisse quand même à la deuxième minute et qu'on s'efforce durant toute la première période de revenir au score qu'on ne revient pas? D'aucuns trouvent hein, qu'il a, il a beaucoup tardé avant de réagir.
Non, je ne pense pas, parce qu'il avait 90 minutes minimum, maximum 120 minutes à gérer. Il est vrai, je partage les avis de mes confrères, que les Lions de la Teranga ont pris un but gag très tôt dans le match, mais il fallait pas, il n'était pas, on va dire, indiqué pour Aliou Cissé de directement opérer des changements. C'est vrai, et comme l'a dit Élisée Oupatine tout à l'heure, qui devait lancer l'attaquant de l'Inter de Milan un peu plus tôt par rapport à toutes les qualités qu'on lui reconnaît. Et certains changements, il les a opérés également hein, dans les 30 dernières minutes du match. C'était peut-être tard, mais moi je pense que après avoir observé en première période une équipe du Sénégal qui a essayé de proposer du jeu, qui a essayé d'apporter, on va dire, de mettre en danger une équipe d'Algérie qui ne jouait pas après l'ouverture du score, l'équipe d'Algérie qui, à mon avis, a offensivement disputé lors de cette finale le pire match de cette compétition, car elle ne nous a pas habitués à cela au plan offensif, mais qui défensivement, comme le disait Amine tout à l'heure, a très 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 bien géré cette rencontre jusqu'au coup de sifflet final. Donc l'équipe du Sénégal a essayé de proposer du jeu, elle a essayé d'organiser, on va dire, de tenter plusieurs actions offensives, mais comme depuis le début de cette compétition, moi je suis un peu déçu hein, de cette équipe du Sénégal qui n'arrive pas à assurer les transitions sur la dernière ligne. Il y a toujours des petits problèmes, il y a toujours, on va dire, des incompréhensions et en plus, cela a été souligné ici, les coups de pied arrêtés qui ne sont pas bien négociés, je pense que c'est Gilles Valentin-Houet qui l'a dit, je l'ai encore remarqué sur la toute dernière action du match, c'était une balle arrêtée qui pouvait être mieux négocié que ce qui a été fait par ceux et les autres. Donc voilà, il faut retravailler cela et il faut absolument, on va dire, mieux huiler la machine offensive de l'équipe du Sénégal qui là, franchement, même si elle avait la possession du ballon, même si elle avait essayé de bien construire sur, on va dire, à l'entrée du grand rectangle algérien, elle semblait manquer de lucidité, hein, manquer de génie un petit peu pour briser ce double rideau défensif algérien.
Alors, Jules, au regard de tout ce qui a été dit et de votre propre conception des choses, l'Algérie fait-elle un bon champion?
Oui, à coup sûr. Et l'Algérie l'a démontré clairement, avec un bon entraîneur, avec une bonne stratégie globale, on peut gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Elle avait d'abord les éléments, les joueurs qu'il faut pour cela. Et au niveau individuel, leur technique individuelle et collective, elle avait une stratégie d'ensemble. Et l'entraîneur Ben Mali a abordé toutes les rencontres selon les circonstances avec la stratégie adaptée. La preuve, les deux matchs contre le Sénégal sont totalement différents. Le premier s'est joué sans pression quand l'Algérie était sûre déjà pratiquement que quel que soit le résultat, elle passerait au tour suivant. Et le deuxième était difficile pour l'Algérie dans la mesure où le but est rentré très tôt et automatiquement, à un moment où les joueurs ne peuvent plus recevoir des consignes, il fallait et se mettre dans un dispositif relativement dangereux qui peut brider en quelque sorte votre élan créatif. L'Algérie a choisi de le faire, a choisi de souffrir et a réussi. Donc je crois que globalement, et au vu d'ailleurs du fait que l'équipe est invaincue pendant tout le tournoi et a gagné presque tous ses matchs, l'Algérie est un grand champion.
Alors Amine, vous le disiez brièvement, cette victoire, il faut aussi la mettre à l'actif de l'entraîneur Jamel Belmadi. On va rappeler qu'il est là depuis seulement 10 mois.
Il faudrait juste aussi faire le détail des entraîneurs qui sont passés par la sélection algérienne depuis la Coupe du Monde 2014 et depuis la démission de Vahid Halilhodžić. L'équipe d'Algérie n'a jamais eu un staff technique stable. Avec Gourcuff, Likens, Rajevic et Majer, elle a eu quasiment 4 entraîneurs en 3 ans. Donc Jamel Belmadi est venu, il a remis de l'ordre, il a surtout réussi à instaurer un équilibre, parce que ces joueurs qui étaient sélectionnés par les différents sélectionneurs n'ont jamais donné leur pleine mesure, alors qu'ici, ils se sont insérés dans le collectif. Comment expliquer qu'un Riyad Mahrez, qui est considéré comme un des 5 meilleurs joueurs africains, n'a jamais réussi en sélection ce qu'il réussissait en club? Aujourd'hui, il a été un des éléments prédominants dans cette sélection algérienne. Aussi, le fait d'avoir réussi un mix entre joueurs expatriés, joueurs formés dans le championnat algérien, qui ont réussi par la suite à venir vendre leur talent dans différents championnats, que ce soit dans les pays du Golfe ou en Europe. Et évidemment, il y a ce panachage de l'âge entre joueurs expérimentés, des joueurs qui approchent de la trentaine et d'autres beaucoup plus jeunes. Comment considérer un Ismaël Benacer que personne ne connaissait il y a quelques années, qui aujourd'hui a 21 ans, le meilleur joueur de cette CAN. Donc cette équipe algérienne, elle doit beaucoup à l'alchimie qu'a réussi à créer Jamel Belmadi. En outre, c'est une équipe qui est très disciplinée tactiquement, qui a su jouer l'attaque placée quand il le fallait, qui a su jouer l'attaque rapide quand les circonstances l'imposaient, et qui a à un moment réussi à défendre avec beaucoup d'ordre et beaucoup de générosité. L'équipe algérienne a marqué 13 buts lors de cette compétition, elle n'en a concédé que 2. Autant dire qu'elle a réussi à être la meilleure attaque du championnat et également la meilleure défense. Voici le résultat d'un travail de longue haleine qui a été effectué tout au long de l'année 2018 et une partie de l'année 2019 par Jamel Belmadi, qui a réussi également à s'adapter aux circonstances de cette CAN. C'est la première CAN à 24 équipes. C'est une CAN qui se déroule en toute fin de saison. C'est une CAN où il fallait évidemment jouer la possession pendant la phase de groupe, essayer de jouer de manière beaucoup plus intelligente la deuxième phase de la compétition qui est une coupe. Et aujourd'hui, l'Algérie fait un beau champion avec un entraîneur national qui a réussi à ressouder les âmes de cette équipe et surtout à construire un groupe conquérant et généreux.
Merci bien, Amine. Vous suivez Sporama, suivez Ouafrique. L'émission revient tout de suite. Parlons à présent de la compétition dans son ensemble. Amine l'évoquait déjà, hein. L'Algérien Ismaël Benacer, élu meilleur joueur du tournoi, il a seulement 21 ans. Il y a eu des stars, hein, dans cette compétition. Je pense à Nicolas Pépé de la Côte d'Ivoire, Mahrez dont on parlait tout à l'heure, Sadio Mané et autres. Et donc, Élysée, c'est ce jeune, hein, milieu de terrain algérien qui a finalement remporté ce trophée de meilleur joueur du tournoi. Personne ne s'y attendait.
Pas du tout, mais au fil des matchs, hein, il s'est vraiment imposé comme un leader au milieu de terrain de cette équipe algérienne et le résultat est là. La récompense, elle est nette puisqu'il vient de signer avec le club du Milan, l'autre, les Rossellero de Milan AC qui vient de lui donner un contrat de 3 ans et demi. Donc, c'est-à-dire que c'est le mérite, hein, d'un travail bien abattu, bien abattu tout au long de cette compétition. Très discret, mais c'est quelqu'un qui a la capacité de vite se reboussonner dans l'entrée jeu de ce milieu terrain algérien comme récupérateur et bien suivi, bien évidemment, de se projeter rapidement en attaque. C'est en quelque sorte le meneur de jeu de cette équipe. C'est vrai que l'Algérie a fait Soufiane Feghouli de Galatasaray ou encore Riyad Mahrez, hein, de Manchester City, mais ce jeune joueur s'est vraiment imposé au milieu dans l'entrejeu de cette équipe algérienne. Il mérite largement cette récompense. C'est vraiment le futur de cette équipe algérienne.
algérienne, il n'était pas présent du côté de Cotonou où l'Algérie a encaissé sa seule défaite depuis l'arrivée de Djamel Belmadi à la tête de cette équipe. Le Guinée l'a battu ici à Cotonou 1-0 sur un chef-d'œuvre Stéphane Sessayon qui a bien servi Cécile Almeida qui a inscrit le seul but de ce match offrant du coup les 3 points de cette rencontre à l'équipe béninoise. Il n'était pas présent. C'est vrai que c'était un match capital, mais il s'est bien transcendé tout au long de cette compétition. Il a amené très loin cette équipe algérienne. Moi, je peux le dire, c'est quelqu'un qui fait reposer le jeu algérien.
Merci bien, Élisée. Alors, Amdine, vous qui étiez sur place, dites-nous, cette CANIN, la première à 24 équipes, et en été, d'habitude ça se jouait en janvier-février, sauvée par l'Égypte en 6 mois de préparation, est-ce une réussite finalement?
Oui, c'est une réussite totale, hein, je le dirais, parce que d'abord, si on regarde quand même le nombre de buts marqués, c'est 102 buts hein, pour cette CAN, c'est un record, mais c'est normal puisque pour les autres CAN, on jouait 32 matchs, et pour cette fois-ci, c'est 52 matchs, donc le record vieux de 62 ans a été battu. Je pense que là, c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est le nivellement vers le haut, hein, Yacouba. Si on regarde cette CAN, c'est un nivellement vers le haut, puisque malgré l'élimination des équipes comme l'Égypte, comme le Cameroun, on a vu que des équipes comme le Sénégal, l'Algérie, le Nigeria, qui ont joué comme les défunts, c'est de très bonnes équipes. Et on a eu quand même un carré d'as extraordinaire avec de très bonnes équipes. Et cette CAN a prouvé que l'Afrique avait que d'autres équipes. Si on regarde la performance aussi du Bénin, si on regarde la performance du Madagascar, il y a vraiment un nivellement vers le haut. C'est vrai que les stats étaient vides, à part le match des pays organisateurs, il n'y avait personne hormis la finale. Ça, c'est une chose à déplorer. Hormis ça, je peux dire qu'on a agité à une très bonne CAN, sanctionnée quand même par une très belle équipe. Si on regarde l'équipe type également, on voit le Sénégal qui est bien représenté avec 5 représentants et l'Algérie qui a gagné la Coupe avec 4 représentants. Et les meilleurs joueurs, les stars, on les trouve dans cette équipe, que ce soit Sadio Mané, que ce soit Mahrez, le meilleur buteur de ce tournoi. Pour me résumer, je dirais qu'on a acheté à une bonne CAN. Maintenant, il faut réfléchir par rapport au public, mais par rapport à la période aussi, parce que la chaleur vraiment a gêné les acteurs, mais également les spectateurs et les joueurs que nous sommes.
Justement, Jules, sur ce point des stades vides, on va dire, c'est peut-être le seul point noir de cette CAN.
Oui, justement, on avait une crainte à ce propos, parce que de tradition, lorsque la Coupe des Nations se joue en Afrique du Nord, on se rend compte que le plus souvent, le public se déplace, surtout quand son équipe nationale joue. Mais on a vu la CAN féminine, par exemple, au Cameroun. Les stades étaient pleins à craquer. Tous les stades étaient pleins à tous les matchs, quelles que soient les équipes qui s'affrontaient. Donc, il y a un petit point noir à résoudre à ce niveau-là. Il faut faire un effort de ce côté. Mais je laisserai aussi, disons que je remarquerai aussi que le fait que la VAR ait été utilisée seulement à partir des matchs de quart de finale, disons que a quand même fait un peu fausser certaines rencontres. Je suis convaincu que si cela avait été utilisé au début de la compétition, il y a certaines équipes qui n'auraient pas été éliminées, disons de grosses équipes qui n'auraient pas été éliminées parce que les avis n'étaient pas fixés par rapport à cette technologie.
Alors,
mais globalement, nous pouvons dire que c'est une bonne chose.
Justement, Amine, sur cette question de l'arbitrage en 30 secondes, que retenir de cet arbitrage, qui a été épaulé par la VAR?
Disons qu'on a changé les règles du jeu à partir des quarts de finale. Il va falloir maintenant uniformiser la prochaine CAN en 2021 au Cameroun. Il va falloir former le maximum d'arbitres à la VAR de façon à ce qu'on ait un arbitrage africain compétent. Il est inconcevable d'avoir des arbitres à VAR étrangers qui viennent de l'Europe pour pouvoir driver cet outil. Aujourd'hui, il va falloir que le chantier de l'arbitrage soit une priorité ou la principale priorité de la CAF.
Merci bien, Amine Birouk, depuis Casablanca au Maroc. Je rappelle qu'on était également avec Élisée Moukoutine au Bénin, Thierry Kambouni de Top Congo FM à Kinshasa, Amdine Sy depuis Dakar et Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. La CAN Égypte 2019, la première à 24 équipes, c'est fini. Les yeux sont rivés vers le Cameroun et sa CAN 2021. Yacouba Ouédraogo devant ce micro à la réalisation, Michel Joseph. On se retrouve la semaine prochaine.